Une église qui abandonne son amour pour le Seigneur Jésus. Vous pensez que c'est possible ? Ça paraît complètement invraisemblable. Et bien pourtant, c'est ce qui s'est passé pour l'église d'Éphèse à la fin du 1er siècle de notre ère, de l'ère chrétienne. Et comme ça a été dit tout à l'heure, nous continuons ce matin notre parcours dans le livre de l'Apocalypse. Dans la seconde partie du livre, qui est présentée ici dans la structure, je l'ai affiché en bleu, qui va du chapitre 2 au chapitre 3, et qui contient sept lettres adressées chacune à une église qui existait déjà du temps de l'apôtre Jean qui écrit ce livre. Avant de nous intéresser à la lettre qui a été écrite à l'église d'Éphèse, un mot d'introduction par rapport à l'ensemble de ces sept lettres. Ces deux chapitres contiennent donc sept lettres adressées à sept églises d'Asie mineure. C'est une province qui se trouve dans l'ouest de la Turquie actuelle. On retrouve aussi la petite île de Patmos, d'où l'apôtre Jean écrit. J'en avais parlé lors de la précédente prédication. Et chacune de ces lettres est bâtie sur un même plan, avec quelques petites exceptions, on y reviendra au fil du texte. Le plan est le suivant. Il y a une... Voilà. Il y a une introduction qui contient une adresse. Voici à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, et ensuite la lettre s'ensuit. Il y a dans l'introduction également la présentation que Jésus-Christ se donne de lui-même et qui reprend l'un ou l'autre des traits que Jésus avait dans la vision du ressuscité dans le chapitre précédent. Voici ce que dit celui qui tient les... etc. etc. On verra au fur et à mesure les descriptions qui sont reprises. On a ensuite le corps de la lettre qui comprend différentes parties. Tout d'abord, un bilan, c'est souvent la partie la plus conséquente de la lettre, un bilan qui est dressé par le Seigneur Jésus de l'Église en question, avec des points positifs, des points négatifs. Parfois, il n'y a que du positif, parfois, il n'y a que le négatif, parfois, il y a les deux. Je connais tes œuvres, etc., etc., mais j'ai un reproche à te faire. Voilà, c'est un exemple. On y reviendra au fur et à mesure que nous avancerons dans chacune des lettres. Le bilan conduit à une exhortation et l'exhortation est souvent aussi assortie de sanctions dans le cas où l'exhortation suite au bilan n'est pas suivie. Et puis la lettre se termine par une conclusion qui comprend un avertissement qui est le même pour chacune de toutes des sept églises, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et à la fin, il y a une promesse qui vient encourager celui qui vainc, le vainqueur. Et les lettres se terminent donc aussi de cette manière. Au vainqueur, je donnerai, etc. Ces lettres sont un peu comme un regard que Jésus-Christ pose sur chacune de ces sept églises. Et je rappelle que le chiffre 7 représente symboliquement la plénitude. Je cite un commentateur qui dit ceci justement au sujet de ces sept églises et du chiffre 7. Ce chiffre suggère qu'au travers de ces sept églises, l'auteur de l'Apocalypse viserait l'ensemble des églises et donc des chrétiens de toute époque. Toutefois, ces sept églises ne sont pas juste des églises symboliques, mais sept communautés de la province d'Asie qui existaient et à qui ont été premièrement adressées les lettres de Jean. Ces lettres ont donc été de vraies lettres correspondant à de réelles difficultés et répondant à de réelles préoccupations pour les chrétiens de ces villes. Il est donc nécessaire de comprendre la situation des chrétiens de l'époque, leurs luttes, leurs défis, leur réalité, pour pouvoir comprendre ce que voulait effectivement dire l'apôtre Jean, et ainsi pouvoir en tirer des applications pour nous. Et c'est ce que nous allons faire avec la première lettre, aujourd'hui en tout cas la première lettre, cette lettre qui est adressée à l'église d'Éphèse. Nous allons donc parcourir le chapitre 2, les versets 1 à 7. J'affiche le texte ici. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit. Voici ce que dit celui qui tient fermement les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ta peine et ta persévérance. Je sais aussi que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance et tu as supporté la souffrance à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, que je déteste aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit. Jean s'adresse ici à Éphèse, et quand on regarde une carte, comme celle que j'affiche ici, décidément, la ville, Éphèse était la ville qui se trouve le plus près de l'île de Patmos, et donc vraisemblablement la personne qui a été chargée de faire circuler le livre de l'Apocalypse à ces sept églises qui sont affichées ici, a commencé par l'église la plus proche, à savoir Éphèse. Éphèse est peut-être bien la ville la plus influente de toute la province de la région, de toute la province d'Asie, de son nom. De par sa situation géographique avec son port et tous les échanges commerciaux qu'il y avait, qui dit échanges commerciaux à l'époque dit aussi échanges de tout un tas d'idées, de philosophies et autres. Il y avait une économie prospère dans cette ville d'Éphèse. 250 000, parfois même 300 000 habitants, selon les estimations, donc une ville importante. Éphèse était aussi la gardienne du temple de Diane. J'affiche ici cette déesse d'un autre nom, Artémis également, on trouve Artémis. Une déesse qui était vénérée dans toute la province d'Asie, déesse de la fécondité. Il est question de cette déesse, elle est mentionnée dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, quand précisément Paul est à Éphèse et qu'il est malmené par tout un tas de personnes, en tout cas pas lui mais d'autres, et on lui dit « mais surtout n'y va pas dans ce grand théâtre de 25 000 personnes parce qu'il y a tous ces gens qui scandent « Grande est la Diane des Éphésiens » ou « l'Artémis des Éphésiens » parce que justement l'économie était mise en péril. Cette déesse était adorée dans un temple qui comptait des milliers de sacrificateurs qui s'adonnaient d'ailleurs à la prostitution et une large partie de l'économie de la ville dépendait du commerce qui se faisait dans ce temple, le temple de Diane, le temple d'Artémis. Et c'est assez singulier pour le mentionner, ce temple fait partie des sept merveilles du monde de l'Antiquité. L'introduction de la lettre se poursuit avec la présentation de l'auteur de cette lettre, Jésus-Christ, même si c'est Jean qui écrit. Il écrit ce que Jésus-Christ lui dit d'écrire et il se présente, Jésus-Christ, comme celui qui tient fermement les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je ne reviens pas sur les détails de cela, nous avions vu au chapitre 1 que les sept étoiles sont les anges des sept églises et en ce sens ils représentent, ils sont les représentants célestes de ces églises. Et les sept chandeliers d'or représentent les sept églises de cette province d'Asie et plus largement, comme on l'a vu tout à l'heure avec le chiffre 7, l'ensemble des églises de tout lieu et tout temps. Jésus-Christ apparaît donc comme celui qui marche au milieu des églises, celui à qui les églises appartiennent. Il marche au milieu des églises en écho à l'Ancien Testament où l'Éternel marchait au milieu de son peuple. On pense notamment à la traversée du désert pendant 40 années. L'Éternel marchait au milieu de son peuple. Jésus-Christ ici incarne une présence vivante auprès des églises, comme l'Éternel l'était pour Israël dans l'Ancien Testament. Jésus accompagne les églises. Jésus prend soin des églises. Jésus nourrit ses églises. Il pourvoit à leurs besoins. Voilà comment il se présente ici. Et l'église d'Éphèse avait particulièrement besoin de se rappeler de cette réalité. Et nous entrons avec cela dans le corps de la lettre, avec ici donc le bilan qui est dressé de cette église d'Éphèse. Jésus commence par féliciter l'église d'Éphèse dans trois domaines. Premier domaine, il dit « Je connais tes œuvres, ta peine et ta persévérance ». Les chrétiens d'Éphèse manifestaient un zèle, un engagement dans certainement tout plein d'activités. D'ailleurs, le texte ne précise pas la nature de ces activités, mais quoi qu'il en soit, ils étaient zélés, engagés, ils travaillaient dur. C'est ce que suggère cette expression ici, ta peine, la peine que tu te donnes, sous-entendu. Second domaine, Jésus félicite également l'église d'Éphèse pour son combat pour le maintien de la saine doctrine, d'une éthique qui sont fidèles à l'enseignement qu'ils ont reçu. Qu'ils ont reçu tout d'abord de l'apôtre Paul, qui a écrit la lettre aux Éphésiens, puis de Timothée, qui a eu un ministère à Éphèse et à qui l'apôtre Paul a écrit deux lettres, la première et la deuxième à Timothée, et encore l'enseignement qu'ils ont reçu par l'apôtre Jean lui-même, qui a vécu dans la deuxième partie, fin du premier siècle, à Éphèse avant d'être emprisonné à Patmos, où il se trouve au moment où il rédige ce livre de l'Apocalypse. Voici ce qui est dit. « Je sais aussi que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. » L'Église d'Éphèse a su discerner l'enseignement erroné de personnes qui se sont présentées à l'Église, qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas. Des apôtres, sous-entendu, ceux que le Christ avait choisis. Ce sont de faux apôtres, parce que leur message ne vient pas du Christ, il est même en opposition à celui de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, au verset 6, « Cependant, tu as ceci en ta faveur, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, que je déteste aussi. » On ne sait pas grand-chose de ces partisans d'un certain Nicolas, vraisemblablement ici. Il en sera question uniquement aussi au chapitre 2, dans le cadre de la lettre envoyée à l'église de Pergame. La Bible d'études du semeur dit ceci au sujet de ces Nicolaïtes. Ces gens enseignaient sans doute que la matière était mauvaise, que le salut consistait à échapper à son corps et donc qu'il importait peu qu'on se livre à l'immoralité sexuelle. Considérant sans doute que les idoles n'existent pas, il jugeait aussi sans importance la participation au culte païen et n'hésitait pas à y participer pour échapper aux persécutions. Les Nicolaïtes ici prêchaient le compromis avec des pratiques immorales et païennes. Mais contrairement à l'église de Pergame, et on y reviendra plus tard, l'église d'Éphèse, elle ne tolère pas cet enseignement-là. Et elle est félicitée précisément par Jésus pour cela. Intéressant de noter que 40 ans plus tôt, on est dans le livre des Actes des Apôtres à ce moment-là, lorsque l'apôtre Paul fait ses adieux aux responsables de l'église d'Éphèse, à la fin de son troisième voyage missionnaire, il est dit ceci en Acte 20, verset 28. « Prenez donc garde à vous-même, c'est Paul qui s'adresse aux responsables d'Éphèse, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, Après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, puisque une dizaine d'années plus tard, le moment où il est là sur la plage en train de faire ses adieux aux responsables d'Éphèse et de leur dire ceci, 15 années plus tard, Paul écrivait cette lettre, la première lettre à Timothée, qui se trouvait précisément à Éphèse, dans le but de corriger, de dire à Timothée, corrige un faux enseignement qui avait cours dans l'église d'Éphèse. Et encore 30 ans plus tard, quand l'apôtre Jean écrit le livre de l'Apocalypse, eh bien l'église d'Éphèse a maintenu la saine doctrine. Et les chrétiens d'Éphèse sont salués pour cela. Notons que pour discerner des erreurs, il faut éprouver ceux qui font la promotion de ces enseignements. Comme le dit le verset 2, « Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. » Ce n'est pas toujours simple parce qu'une fausse doctrine, un faux enseignement est parfois très subtil. Il s'appuie sur une partie de la vérité. On déguise la vérité avec séduction. Mais quand on y regarde de plus près, la vérité n'est pas là. La vérité telle qu'elle est enseignée dans la parole de Dieu. Ce que nous faisons dans notre Église, dans le cadre du culte et en particulier de la prédication, dans le cadre des rencontres de quartier, où cette année nous étudions les petits prophètes dans l'Ancien Testament, dans le cadre des études bibliques en semaine, dans le cadre des formations du samedi matin, une fois par mois, avec ce module à la découverte de l'Ancien Testament, encore ce mois-ci, et à partir de janvier, le module sur les fondements de la foi, la doctrine chrétienne. Tout cela, c'est pour nous ancrer davantage dans la connaissance de Dieu, de sa parole, de la doctrine. Non pas pour combler nos têtes de connaissances et dire « je connais plein de choses ». Ce n'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de mieux vivre de la parole de Dieu, de pouvoir éprouver et discerner l'erreur si elle est présente. On a ce texte connu dans cette lettre, cette seconde lettre que Paul a écrite à Timothée, alors à Éphèse, où il dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Et ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » De Timothée 3, 16 et 17. Jésus félicite donc l'église d'Éphèse parce que précisément elle a su discerner l'erreur. Elle a tenu ferme devant toutes les valeurs, les idéologies ambiantes qui avaient cours de son temps. Troisième domaine de ce bilan positif jusque-là, l'église d'Éphèse est félicitée pour son endurance dans l'adversité. C'est ce que dit le verset 3. « Tu as de la persévérance et tu as supporté la souffrance à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. » L'église d'Éphèse a souffert pour son Seigneur. Elle a fait preuve d'endurance, de persévérance. Bien souvent, les fausses doctrines sont là pour assouplir, pour faciliter, pour rendre plus agréable ce qui peut être parfois un peu rigoureux dans la parole de Dieu. Vraisemblablement, cet enseignement des Nicolaïtes ici était là pour faciliter la vie, pour que les persécutions cessent. Ces fausses doctrines, ces idéologies, ces philosophies nous disent « écoute ton cœur, fais ce qu'il te plaît, ne te tracasse pas avec tout ça, avec la Bible ». Moi, je t'annonce quelque chose de bien mieux, de bien plus actuel, de plus facile. Ça va t'éviter des souffrances. Tu ne seras plus persécuté d'ailleurs, parce que tu feras comme tout le monde. Et les chrétiens d'Éphèse souffraient, c'est ce que dit le texte ici. Ils souffraient parce qu'ils étaient mis en retrait. Certains, on leur refusait de pouvoir commercer Ils ne pouvaient donc pas subvenir à leurs besoins. Ils vivaient dans les difficultés, ils n'avaient pas de travail. D'autres qui travaillaient pouvaient perdre leur travail s'ils refusaient de s'inscrire dans toute tout le processus des cérémonies religieuses qui avaient trait notamment au temple de la déesse Artémis ou Diane ou d'autres divinités locales. Ils risquaient de perdre leur travail s'ils ne faisaient pas comme tout le monde. Et donc, il pouvait être tentant, en tant que chrétien, d'essayer de se fondre dans la masse, quitte à faire comme tout le monde, finalement. Ça me fait penser à l'exemple des faux prophètes, j'insiste bien sur le faux prophète dans l'Ancien Testament, qui se tenaient à la cour du roi, mais qui disaient au roi ce que le roi avait envie d'entendre. Alors, eux, ils avaient le vent en poupe, hein. Parce que le vrai prophète envoyé par l'Éternel et qui disait au roi « Change ceci, arrêtez de faire cela », celui-là, il en souffrait. La vérité dérange. Regardez ce que dit la Bible, quelques versets plus loin que le texte que je viens de lire juste avant, dans 2 Timothée, encore cette lettre adressée à Timothée, à Éphèse, au chapitre 4, versets 3 à 5. Le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, Timothée, toi, fais preuve en toutes circonstances de modération. Supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Incroyable. Le maintien de la vérité coûte, et parfois il coûte très cher, mais Jésus nous demande de tenir ferme. Il n'y a pas de place pour le compromis. C'est une tentation qui guette l'Église de tout temps. Elle guettait les Éphésiens, mais elle guette toutes les églises, et jusqu'à nous aujourd'hui encore. Réfléchissons chacun pour nous-mêmes à ce qui peut nous tenter de nous relâcher dans la fidélité à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui pourrait être une source de relâchement? De dire, bon là, ok, la peur de perdre mes amis peut-être? La peur de perdre mon travail? La peur de ne pas être compris par ceux qui m'entourent. La peur d'être jugé intolérant parce qu'on ne veut pas penser comme tout le monde sur des gros sujets de société notamment. Ou peut-être simplement de l'indifférence ou de la paresse qui conduit à simplement négliger la parole de Dieu. C'est peut-être même pire encore. Parce que c'est la porte d'entrée pour tout le reste. La fidélité à la parole de Dieu, que ce soit en termes de doctrine ou d'éthique, quand je parle d'éthique, c'est-à-dire de manière de vivre, est quelque chose qui nous coûte. La fidélité à Dieu n'est pas le chemin le plus facile. Et d'ailleurs, Jésus nous a prévenus. Il nous a dit qu'il faut emprunter le chemin qui est étroit. C'est pas l'autoroute qu'il nous demande d'emprunter. C'est le chemin qui coûte, qui est peu trop étroit, qui est resserré. Mais c'est ce chemin-là qu'il nous invite, qu'il nous exhorte d'emprunter. Retenons un mot qui est commun dans ces trois domaines où l'Église d'Éphèse est félicitée, le mot fidélité. Fidélité dans ses œuvres, fidélité dans sa doctrine, dans son éthique, et fidélité dans l'épreuve au sein de l'adversité. Mais le bilan que dresse Jésus au sujet de l'Église d'Éphèse n'est pas que positif. Et vous m'avez entendu tout à l'heure pour introduire cette prédication, il y a également ce qui est dit au verset 4. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce que signifie cette expression « premier amour » ? La Bible du Semeur traduit « J'ai cependant un reproche à te faire ». Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. l'amour que tu avais au début. Qu'est-ce que c'est que ce premier amour, cet amour du début? Qu'est-ce que ça signifie? On l'a dit, l'église d'Éphèse, elle était riche par sa conduite, sa doctrine, son endurance dans l'adversité, ses œuvres donc. Elle est semblable, il me semble que cette église a trop été centrée sur ces choses-là, a en oublié ce qui est le plus important. Elle a oublié celui qui est la source de tout cela, celui qu'elle sert en faisant ces choses-là, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens d'Éphèse avaient oublié d'aimer le Seigneur et peut-être aussi de s'aimer les uns les autres. John MacArthur, dans son commentaire sur l'Apocalypse, dit ceci: « Bien qu'il fût un temps où elle savait aimer, 40 ans plus tard, l'affection de sa première génération de croyants s'est refroidie. Cette génération s'est relâchée jusqu'à en venir à assumer ses responsabilités chrétiennes avec un amour faiblissant envers son Seigneur et envers les autres. » Cet abandon du premier amour veut dire en fait ne plus centrer tout ce que nous faisons, toute notre action sur Jésus-Christ, ne plus l'aimer lui pour ce qu'il est et tout ce qu'il a fait. Ne plus puiser dans son amour pour être animé de cet amour dans nos actions ensuite. Et ça a nécessairement une répercussion sur l'amour les uns pour les autres au sein de la fraternité, au sein de l'Église et plus largement au sein de nos relations avec notre prochain. Parce que cet amour pour notre prochain, d'une manière générale, se fonde sur l'amour de Dieu. Et par conséquent, si notre amour de Dieu, notre amour pour Dieu souffre, eh bien notre amour pour le prochain en pâtira également. Une église sur le plan communautaire, ou un chrétien sur le plan individuel, peuvent tomber dans le piège de l'activisme, à faire plein de choses, à les faire bien, je ne suis pas en train de remettre ça en question, à le faire bien, plein de choses. Mais l'écueil qui les guette, c'est de passer à côté du plus important, de cette relation vivante à Jésus-Christ, de leur amour pour Jésus-Christ. Et ce bilan amène à une exhortation dans le verset 5. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Jésus demande aux chrétiens d'Éphèse de se souvenir de cette qualité d'amour qu'il manifestait au commencement de l'Église 40 ans plus tôt, c'est-à-dire dans les années 50 du premier siècle. Et ce n'est probablement pas un hasard de ce que lorsque Paul a écrit sa lettre aux Éphésiens, il avait conclu sa lettre par une prière toute spéciale, elle ne s'affiche pas mais je vous la lis, « Que la paix et l'amour soient donnés aux frères avec la foi, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. » Inaltérable. C'est comme ça que se termine la lettre aux Éphésiens. À cette époque-là, lettre aux Éphésiens, donc on est 30 ans avant quand Jean écrit ici, 10-15 ans après la fondation de l'église d'Éphèse. Et à cette époque-là, l'église d'Éphèse vivait cet amour pour le Seigneur Jésus. Mais à la fin du premier siècle, force est de constater que cet amour s'est altéré, il s'est refroidi, il s'est affaibli. Comme si le Seigneur qui a inspiré l'apôtre Paul quand il a écrit cette lettre aux Éphésiens, voulait anticiper ce qui guettait l'église d'Éphèse et ce qui guette toute église. Ainsi, cette exhortation à pratiquer ici les premières œuvres ne veut pas dire ajouter de nouvelles œuvres à celles qu'on fait déjà, mais plutôt à accomplir nos œuvres dans le cadre d'une relation vivante à Jésus-Christ, où l'amour est présent. L'amour, bien sûr, pour Jésus, pour notre Dieu. Et si cet amour est présent, ça rejaillira également dans nos relations les uns avec les autres. la parole de Dieu, et je n'ai pas besoin de trop insister là-dessus parce que je pense que j'enfonce une porte ouverte, mais elle insiste à bien des reprises sur le fait que l'amour est la chose la plus importante. On pense à 1 Corinthiens chapitre 13, ce chapitre sur l'amour. On pense à ce que Jésus a dit en Matthieu 22, avec les deux commandements les plus importants. L'amour de Dieu, en premier, de toute notre force, de tout notre cœur, de tout notre être. Et deuxièmement, l'amour du prochain. Et si on veut resserrer juste à Jean, puisque là on est dans l'Apocalypse de Jean, on peut penser à la première lettre que Jean a écrite en 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Si nous aimons, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. Nous pouvons faire bien des choses, être actifs dans tous les domaines possibles. Mais si nous n'avons pas l'amour pour celui qui se tient au milieu de ses églises, de son église, ça ne nous sert à rien. Pourquoi allons-nous à l'église le dimanche ? Parce que c'est écrit dans la Bible ? Parce qu'on a du plaisir à se retrouver entre nous ? Pourquoi participons-nous à une réunion de quartier ? Ou pourquoi ne participons-nous pas à une réunion de quartier ? Pourquoi exerçons-nous l'hospitalité entre nous ? Pourquoi faisons-nous le ménage dans les locaux ? Pourquoi les musiciens font et usent de leurs instruments le dimanche ? Pourquoi la technique, et elle a été saluée encore ce matin, viennent en avance pour préparer, coordonner ? Pourquoi sommes-nous impliqués dans l'association Aide et Espoir, qui fête ses 30 ans cette année ? Notre association humanitaire et sociale. Pourquoi nous faisons tout cela ? Et c'est très bien de faire tout cela. Mais pourquoi le faisons-nous ? Ou j'ai envie de dire, pour qui le faisons-nous ? N'est-ce pas par amour pour notre Seigneur Jésus-Christ ? Où en sommes-nous dans cet amour pour le Seigneur Jésus ? Peut-on le qualifier d'inaltérable ? Comme il en est question en Éphésiens 6, verset 23, 24. À chacun de s'examiner en lui-même. Et s'il y a besoin de changer, si on se rend compte que notre amour a souffert, s'est refroidi, comment changer ? Comment retrouver l'amour du début ? Comment entretenir cet amour pour Dieu ? Car c'était bien cela le problème. Cette génération de chrétiens à Éphèse n'a pas su entretenir cet amour que la génération précédente avait su vivre. Comment faire pour retrouver Jésus-Christ, lui qui nous a aimés le premier et a donné sa vie par amour pour nous ? Ne nous lassons pas, ne nous lassons pas d'aimer le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de cet amour inaltérable.